Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Vatican. Nous sommes ensemble pour une trentaine de minutes. Voici les grandes articulations de cette édition. Dans l'actualité de l'Église, nous vous rendons compte des activités du Saint-Père au cours de la semaine qui s'achève, dont la semaine du Pape, avant de vous faire écho des nouvelles de l'Église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Burkina Faso et au Bénin. L'actualité sociopolitique africaine, deuxième grande articulation de cette édition, nous conduira en Centrafrique, en Gambie, en Guinée-Bissau, entre autres. À tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niémier.
Ouvrons l'actualité de l'Église par la semaine du Pape. Donatien Nyembo.
Le pape a reçu samedi en audience privée le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, suivi du cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, puis le cardinal Mauro Gambetti, archiprêtre de la basilique papale Saint-Pierre au Vatican, vicaire général de sa sainteté pour la cité du Vatican et président de la fabrique de Saint-Pierre. Il a ensuite reçu le cardinal Santos Abril y Castello, président de la commission cardinaliste pour l'Institut des œuvres de religion. Outre ces différentes audiences privées, jeudi, le Saint-Père s'était entretenu avec les participants au congrès promu par la Société italienne de pharmacie hospitalière. Dans l'après-midi du jeudi, le pape avait adressé un message vidéo aux participants au 57e colloque de la Fondation IDEA sur les thèmes « Faisons une Argentine durable » qui avait lieu du 13 au 15 octobre 2021 à Buenos Aires, en Argentine. Mercredi, le pape continuait son cycle de catéchèses sur la lettre de Saint Paul aux Galates en insistant sur la liberté chrétienne comme ferment universel de liberté. Le même mercredi, François avait autorisé la Congrégation pour les causes des saints à promulguer les décrets sur la guérison miraculeuse attribuée à l'intercession de Jean-Paul Ier, ce qui ouvre la voie à sa béatification. Lundi, le Saint-Père avait reçu en audience privée le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso et président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, avec son vice-président Mgr Lucio Andriche Mwandula, évêque de Saïsaï au Mozambique, ainsi que le secrétaire général le Père Henri Terroassé à Kabia. Lundi, au chapitre des nominations, Mgr Cristiano Antonietti, secrétaire de la Nonciature, en poste à la section des affaires générales de la secrétaire d'État, a été nommé maître des cérémonies du pape. Une autre nomination lundi, c'était celle de Mgr Diego Giovanni Ravelli, au titre de maestro des célébrations liturgiques pontificales et chef de la chapelle musicale pontificale. Mgr Diego Ravelli était jusqu'à présent chef de bureau à l'Elemosina Apostolica et maître des cérémonies pontificales.
La phase diocésaine du synode sur la synodalité dans l'Église, sur le thème « Pour une Église synodale, communion, participation, mission » s'ouvre le dimanche 17 octobre dans tous les diocèses du monde. En Côte d'Ivoire, en prélude à cette importante consultation du peuple de Dieu, l'équipe nationale de contact mise sur pied par la conférence épiscopale ivoirienne était face à la presse mercredi au siège de l'institution à Abidjan pour porter officiellement cette information à l'ensemble des fidèles et les inviter à y participer massivement.
C'est un événement important de l'Église locale et universelle, un événement qui concerne tout le peuple de Dieu, fidèles laïcs, clercs et personnes consacrées. Chacun participera et prendra sa part du chemin synodal à la mesure de ses forces et de sa vocation.
A fait savoir le père Émile Quélignon, secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale ivoirienne, dans ses propos liminaires lors de cette conférence de presse qu'il a animée. Dans l'organisation pratique de cette vaste consultation sur la marche synodale dans les diocèses, l'église locale de Côte d'Ivoire a mis sur pied une équipe de contact d'une dizaine de personnes au plan national qui sera chargée, elle, d'assurer la coordination avec tous les 15 diocèses du pays, et ce, conformément au modèle proposé par le secrétariat secrétaire général du synode à Rome. Ce chemin synodal ouvert à tous les fidèles, a expliqué le porte-parole de cette équipe contact, se fera autour de quatre axes. Appel à marcher ensemble, une église est constitutivement synodale, à l'écoute des écritures, la synodalité en action, piste pour la consultation du peuple de Dieu, et cette partie propose 10 pôles thématiques essentielles à approfondir tout au long du parcours. Notons que la synthèse élaborée par chaque diocèse au thème de ce travail d'écoute et de discernement constituera sa contribution propre au parcours de l'église universelle. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, il y a eu profession de vœux chez les sœurs thérésiennes à Bassankoussou et à Boudjala. Le compte rendu de notre correspondant local.
Deux congrégations religieuses féminines placées sous le patronage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ont reçu la semaine dernière de nouveaux membres après la première profession de vœux de chasteté, pauvreté et obéissance. Au diocèse de Bassankoussou, sœur Félicité Mbombe, supérieure générale des sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Bassankoussou, a reçu les premiers vœux des sœurs Joséphine Alanda, Judith Bekindo, Florence Bokungambo, Patience Limpiti et Clarisse Lokota. Sœur Mbombe a également reçu les vœux perpétuels des sœurs Olive Bahassa et Nancy Bolengou. Et 8 jeunes filles ont marqué leur entrée au noviciat par le port de l'habit de la congrégation. C'était au cours de la messe présidée dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul par l'évêque de Bassankoussou, Mgr Joseph Mokobe. Trois sœurs célébraient le jubilé de 25 ans de leurs vœux perpétuels, les sœurs Anastasie Maboto, Marie-Madeleine Bokungu et Félicité Mbombe. Pour sa part, l'évêque de Boudjala, Mgr Philibert Tembo, a invité de façon particulière à l'humilité les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Boudjala qui émettaient leurs vœux devant la commissaire sœur Anne Motingia. La sœur Eugénie Bazongo a émis ses vœux perpétuels alors que les sœurs Marie Batandimoa, Evelyne Motondo et Raissa Mamungo avaient prononcé leurs premiers vœux. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Monseigneur Mac Gérard Maïès, nonce apostolique près le Bénin et le Togo, vient d'effectuer une visite à la Caritas du Bénin. Notre correspondant local était sur place.
Monseigneur Marc Gérard Maïès, nonce apostolique près le Bénin et le Togo, a été l'hôte de la direction nationale de Caritas Bénin, sise à Djeffa dans le diocèse du Porto Novo, le mercredi 13 octobre 2021. Objectif, découvrir cette institution de la conférence épiscopale du Bénin dans ses structures, sa mission et son organisation. Et le directeur national, le père Philippe Sanfoué-Koua, d'en donner un aperçu au début de la messe d'action de grâce, présidée par le prélat.
C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au début de cette célébration eucharistique pour souhaiter la cordiale bienvenue dans l'intimité de cette chapelle où nous nous réunissons quotidiennement pour célébrer l'Eucharistie, pour mieux accomplir cette mission d'Église au service de la charité.
Et le nonce à l'homélie de préciser.
Ce que nous ne devons jamais oublier, c'est que l'Église est dans le Christ le signe et l'instrument de l'amour de Dieu pour l'humanité et pour toute la création.
La séance de présentation qui a suivi la messe a permis au nonce de s'informer sur des questions d'autofinancement de Caritas Bénin. Le directeur financier de l'institution, M. Philippe Awanyé, en a dit un mot.
Il y a un plan de masse pour la construction d'un centre d'accueil pour essayer de mettre en place des structures pour mobiliser par nous-mêmes des fonds pour pouvoir pérenniser la présence de l'Église auprès des plus pauvres.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Parlons à présent de l'Assemblée générale spéciale de la Commission épiscopale de santé Burkina-Niger.
Des diocèses du Niger et du Burkina Faso, les membres de la Commission épiscopale de santé se sont retrouvés au siège de la Conférence épiscopale Burkina-Niger pour évaluer les activités pastorales annuelles de la dite commission. C'est Mgr Justin Kiedga, évêque de Waïgouya et président de la Commission épiscopale de santé qui préside cette rencontre d'évaluation. Dès son discours d'ouverture, l'évêque président engage toutes les commissions diocésaines de la pastorale de santé à donner de la voix à leurs différents niveaux pour que la vie et sa dignité soient respectées.
Nous invitons les responsables à redoubler d'efforts pour organiser, dynamiser cette pastorale au niveau des diocèses, des paroisses, des structures de santé, afin de donner la voix contre la culture de la mort prônée de nos jours, dans le non-respect de la vie, de la dignité humaine dans toutes ses phases.
Il s'agit notamment de
fécondation in vitro, qui n'est pas étranger au milieu maintenant, la manipulation génétique, encore moins, les nouvelles pratiques contraceptives et abortives, et pensons même à certains programmes de stérilisation et les expériences cliniques qui sont contre la vie.
Pour mener à bonne fin ce projet, la Commission a édité un livre de sensibilisation intitulé « Les dangers pour la santé des méthodes contraceptives, une approche scientifique de la question ». Ce travail de sensibilisation, selon Mgr Justin, se fera en synergie avec d'autres commissions épiscopales. Paul Da, Ouagadougou pour Radio Vatican.
À nos auditrices et auditeurs, nous annonçons qu'à partir du 31 octobre 2021, coïncidant avec le passage à l'heure d'été et suivant les directives de la Conférence de coordination des services de radiodiffusion en ondes courtes HFCC, les changements de fréquence suivants seront nécessaires. Notre émission du 17h temps universel passe à 11 935 kHz, bande de 25,19 mètres, et à 9 705 kHz, bande de 30,91 mètres. Celle de 20h30 GMT, ou temps universel, passe à 7 365 kHz, bande de 40,73 mètres, et 6010 kHz, bande de 49,91 mètres. En espérant que ce changement vous donnera satisfaction, nous vous remercions de vos remarques sur une éventuelle défaillance technique.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, de retour au pays depuis juin après 10 ans d'absence, lance ce week-end un nouveau parti politique pour réunir la gauche avec l'élection présidentielle de 2025 en ligne de mire. Le Burkina Faso a commémoré vendredi le 34e anniversaire de la mort de l'ancien président Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987 et dont un buste a été dévoilé à l'université qui porte son nom à Ouagadougou en présence de sa veuve Mariam. Cette œuvre placée à l'entrée de l'université est un travail de souvenir et de mémoire pour les générations d'enseignants et d'étudiants actuels et futurs, a déclaré Mariam Sankara en inaugurant ce buste. L'ancien président gambien Yahya Jammeh a dénoncé vendredi en exil l'accord conclu entre son parti et celui de l'actuel président en vue de la présidentielle de décembre et a ordonné une alliance avec un autre parti. Le président centrafricain Faustin Akanji Touadéra a décrété vendredi un cessez-le-feu unilatéral de son armée et ses alliés dans leur guerre contre les rebelles pour favoriser l'ouverture prochaine d'un dialogue national, assurant que l'ennemi a fait de même à l'exception de deux importants groupes armés.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niamier.
Le gouvernement de Guinée-Bissau a démenti vendredi l'existence de préparatifs en vue d'un putsch dans ce pays familier à des coups de force. Le chef d'état-major des armées, le général Biagé Nantan, avait déclaré jeudi que l'armée avait identifié un groupe de militaires qui était en train de mobiliser des soldats en achetant leur conscience contre des billets de banque afin de subvertir l'ordre constitutionnel établi. Le père jésuite Adrien Letiampa nous introduit à la méditation avec la lecture du 29e dimanche du temps ordinaire.
Tenons ferme l'affirmation de notre foi. Chers frères et sœurs, nous connaissons bien l'évangile qui est proposé à notre méditation à ce dimanche. La requête de Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui se compte parmi les premiers disciples de Jésus. Ils veulent une place de choix dans la gloire. Et pour bien comprendre le problème que pose cette requête, il est bon de se rappeler le passage de l'évangile qui vient juste avant. Il s'agit de l'annonce que Jésus fait pour la troisième fois de sa prochaine passion à Jérusalem. C'est dans ce contexte que les deux fils de Zébédée font leur requête à Jésus. Ils veulent être placés en bonne position dans la gloire de Dieu. Est-ce donc qu'ils ont bien compris que la mort du Christ instaurera une gloire éternelle? Ce n'est pas si sûr que cela. Manifestement, ils n'ont pas saisi la gravité de ce que Jésus annonce. Ils sont plutôt dans la recherche d'une gloire facile et factice. Ce qui les intéresse, ce n'est pas tant le chemin suivi par le Christ que la gloire qu'ils espèrent en tirer dans l'immédiat. Ils ne réalisent pas encore que cette gloire du Christ se réalise essentiellement dans l'abaissement, l'humilité et le service. Ils oublient ce que la première lecture de ces jours nous a rappelé en évoquant l'image du serviteur souffrant qui remet sa vie en sacrifice pour la multitude. L'évangile de ce dimanche nous invite ainsi à nous mettre véritablement à la suite du Christ en adoptant ses échelles de valeur. Vous le savez, ce que l'on regarde comme chef de nation commande en maître. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, nous dit le Seigneur. Ainsi donc, le Christ nous engage à transformer notre regard sur ce qui doit être notre gloire. Comme lui, nous devons être de ceux qui trouvent leur gloire dans le service et le don d'eux-mêmes aux autres. La gloire de celui qui se dit et se veut disciple du Christ, c'est le service. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, nous dit l'Évangile. La grandeur du chrétien, c'est dans le service humble pour l'instauration du règne des dieux. C'est dans ce contexte qu'il nous faut entendre l'invitation qui nous est adressée dans la deuxième lecture de ce dimanche. Tenons ferme l'affirmation de notre foi. Il s'agit de nous rappeler que notre foi se fonde sur le Christ, venu dans notre chair pour nous sauver et nous libérer de l'esclavage du péché et de la convoitise. Notre force et notre assurance dans l'accomplissement de son règne trouvent son ancrage dans la foi en celui qui s'est offert pour nous sauver. Avec lui, nous savons que si nous nous remettons totalement en Dieu en sacrifice, nous verrons la lumière de Dieu resplendir dans nos cœurs. Avec le Christ, nous réalisons que ce qui apparaît comme un échec aux yeux humains peut devenir source de bénédiction pour nous-mêmes et pour notre monde. Pour cela, tenons ferme l'affirmation de notre foi en celui qui est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Amen.
Le père jésuite Martin Bahati continue de nous présenter l'encyclique du pape Fratelli Tutti.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui dans la lecture méditative de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale, nous lisons le troisième point du cinquième chapitre. Ce point est intitulé « Une charité sociale et politique ». Selon l'encyclique, pour beaucoup de personnes, la politique est aujourd'hui un vilain mot. Et on ne peut pas ignorer qu'à la base de ces faits, il y a souvent les erreurs, la corruption, l'inefficacité de certains hommes politiques. Toutefois, les documents soulèvent une question importante. Le monde peut-il fonctionner sans la politique? Peut-il y avoir un chemin approprié vers la fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne politique? Partant de cette interrogation, le troisième point analyse ce qu'il appelle une politique appropriée. Une fois encore, le pape insiste sur le fait que la politique ne doit pas se soumettre à l'économie et celle-ci ne doit pas se soumettre au dictat ni au paradigme d'efficacité de la technocratie. Même s'il faut rejeter le mauvais usage du pouvoir, la corruption, la violence des lois et l'inefficacité, on ne peut pas justifier une économie sans politique qui serait incapable de promouvoir une autre logique qui régisse les divers aspects de la vie et de la crise actuelle. Tout au contraire, note le pape, nous avons besoin d'une politique aux vues larges qui suivent une approche globale en intégrant dans un dialogue interdisciplinaire les divers aspects de la crise et le pontife de penser à une politique capable de réformer les institutions, de les coordonner et de les doter de meilleures pratiques qui permettent de vaincre les pressions et les inerties vicieuses. Face à tant de formes mesquines de politique et à courte vue, le pape François rappelle que la grande politique se révèle quand, dans les moments difficiles, on œuvre pour les grands principes et en pensant au bien commun à long terme. Plus loin, le pontife souligne « Penser à ceux qui viendront ne sert pas aux objectifs électoraux. Mais c'est ce qu'une justice authentique exige, parce que, comme l'ont enseigné les évêques du Portugal, la terre est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante. »
Invité du jour.
Notre invité du jour est l'archevêque de Ouagadougou, Burkina Faso, le cardinal Philippe Ouédraogo. Dans la suite de cet entretien que nous vous proposons, l'archevêque de Ouagadougou nous parle de la situation sécuritaire qui prévaut dans le Sahel, où les attaques djihadistes ont fait plus d'1,4 million de déplacés et plus de 2000 morts depuis 2015. Le cardinal Ouédraogo.
Nous avons un ennemi en face qu'on ne connaît pas. Et qui est derrière tout ce mouvement? Qui finance tout ce mouvement? Les Kalachnikovs ne sont pas fabriqués en Afrique. D'où viennent ces Kalachnikovs et ces instruments pour tuer, pour que des frères puissent tuer leurs frères et leurs sœurs, leurs semblables? C'est vraiment une tragédie. Bien sûr, il y a des suppositions. On saurait accuser ceux qui coopèrent avec les forces du mal. Il y en a certainement. Nous n'arrivons pas à les identifier. On dit toujours des hommes armés, etc., sans pouvoir les identifier concrètement. Là, c'est vraiment un sérieux problème. Il nous faut vraiment une concertation et une synergie pour essayer de vaincre le mal qui est là et qui traumatise toutes les populations. Un proverbe de chez nous dit qu'un seul doigt ne ramasse pas la farine. Donc, c'est ensemble que nous saurions trouver des solutions, conjuguer nos efforts. Malgré la présence de forces extérieures qui sont là et les forces internes de nos États, nous n'arrivons pas à juguler le problème et à neutraliser les forces du mal. Et nous voyons mourir par semaine des dizaines, sinon des centaines de frères et de sœurs inutilement tués.
Est-ce que vous pensez, Éminence, que la communauté internationale est suffisamment impliquée?
La communauté internationale est là, aussi bien au Mali, au Niger, au Burkina, les forces extérieures sont là. Chaque pays essaie de nouer des alliances susceptibles d'aider à faire face à cette tragédie. Mais nous constatons aussi le résultat, l'inefficacité de toutes ces forces qui sont là pour essayer d'aider à vaincre le mal. Et même au niveau du G5 Sahel, donc c'est une association des États concernés, les cinq États concernés, des pays du Sahel. Leur synergie d'efforts ne donne pas les fruits escomptés. La présence aussi des forces internationales sont appréciables, mais nous voyons des résultats. Constamment, les hommes et des femmes innocents meurent. On n'arrive pas à trouver des solutions. Ceci étant, on souhaite seulement que de part et d'autre, on puisse manifester la solidarité et beaucoup de compassion pour conjuguer nos efforts et vaincre ce drame de notre, non seulement de l'Afrique, mais de toute l'humanité.
Dans ce contexte, on sait que la France va se repositionner dans le Sahel. Est-ce que, selon vous, cela aura des répercussions directes sur la situation de votre pays? Et si oui, de quelle nature?
Les choix sont variables selon les pays. Je sais qu'au Burkina Faso, le pouvoir n'exclut pas la coopération avec la France et les autres forces, mais comme appui aux forces de défense et de sécurité nationale. Pas une substitution, mais une coopération. Alors à ce niveau, chaque pays a ses choix. Le Mali vit une situation bien spécifique, le Niger et le Burkina Faso. C'est un mal de toute l'humanité. Et si quelque part dans le monde, des hommes sont heureux, c'est toute l'humanité qui est heureuse. Si quelque part dans le monde, des hommes et des femmes sont malheureux et meurent quotidiennement, mais c'est un mal pour toute l'humanité. Le mal reste toujours le mal et le bien reste toujours le bien. Puissions-nous donc œuvrer ensemble pour que l'emporte le bien sur le mal et que les tueurs, ceux qui ne respectent pas la vie humaine, puissent se convertir et qu'il y ait un peu plus de paix, un peu plus de bonheur dans toute l'humanité et dans tout le monde entier.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, il répondait aux questions de Manuela Afiji.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Voilà, amis auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie et surtout de votre fidélité renouvelée à Radio Vatican. À très bientôt.
Mama Maria, merci.